Bienvenue dans Osons l'intime, une chronique portée par Claire et Céline du collectif Féminin Naissance Royans Vercors, dans laquelle on ouvre de nouveaux horizons autour de sujets souvent tabous, relégués au couple, à la famille ou à nos réflexions individuelles. Des partages d'une dizaine de minutes de nos vécus de femmes cisgenres et d'accompagnantes. Bienvenue à toutes et à tous dans Osons l'intime pour une nouvelle chronique en compagnie de Céline et de Claire du collectif Féminin Naissance Royans Vercors. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Pour aujourd'hui, on va aborder un sujet avec pas mal de théories, ou en tout cas de mots qui peuvent faire un peu peur, système nerveux, théorie polyvagale. Mais Claire va nous expliquer tout ça. Et donc on va s'interroger aujourd'hui, quel est l'impact en fait du système nerveux dans nos relations, Claire ?
Exactement. Moi, j'avais envie de faire cette chronique aujourd'hui parce que quand j'ai découvert cette théorie, il y a beaucoup de choses qui sont éclairées pour moi de ce qui se vivait dans mes relations et notamment les relations amoureuses. Parce qu'il faut savoir que les relations amoureuses, c'est là où se rejoue beaucoup ce qui a pu se jouer dans l'intimité avec nos parents quand on était petits et petites. Et que du coup, tadam, quand on est en relation, et bah c'est là où ressortent comme des gros dossiers où parfois voilà, on peut pas vraiment comprendre pourquoi on surréagit comme ça, pourquoi on voilà, on va péter un câble parce que notre partenaire nous dit une chose qui a priori est plutôt anodine et on peut juger beaucoup, on peut vraiment voilà même s'auto-flageller de réagir comme ci comme ça et du coup voilà, vraiment pour moi la théorie polyvagale elle est venue soutenir vraiment une compréhension dans ce qui se joue et du coup voilà, déjà pour poser un chiffre, il y a 85% de la population qui est dérégulée au niveau du système nerveux. C'est énorme et donc je pense que c'est ce qui explique aussi que bah on ait autant de défis dans nos relations et notamment les relations amoureuses. Et en gros pour expliquer un peu le système nerveux, dans le corps c'est comme si c'était un grand centre de contrôle de notre corps où en fait il vient gérer des choses, des actions automatiques et inconscientes. Par exemple la digestion, la respiration ou les émotions. C'est vraiment des choses où en fait on n'a pas directement l'impact dessus, je veux dire l'estomac il digère malgré nous, la respiration voilà, quand on dort on ne contrôle pas du tout notre respiration et les émotions pareil quoi, ça vient, ça part voilà, on n'a pas de, en tout cas sur cette première impulsion, sur ce premier mouvement du corps, on n'a pas du tout la main. Et le système nerveux il est aussi responsable de notre survie, donc en fait le système nerveux il vient envoyer des messages au corps pour adapter notre comportement. Donc si je me sens en sécurité voilà, ça veut dire que mon corps est détendu, ça veut dire que ma respiration se fait tranquillement, ça veut dire que pareil pour ma digestion. Par contre si mon système nerveux perçoit un danger, alors là il va vraiment venir mettre des, comment dire, donner des informations. Encore une fois, c'est très inconscient, donc on n'a pas forcément conscience que notre corps il perçoit un danger. Du coup, on n'a pas conscience que notre corps il envoie, notre système nerveux envoie des messages à notre corps de se tendre, de voilà, d'augmenter le rythme de la respiration, par exemple, des choses où voilà, on peut ressentir, par exemple, quand on est vraiment stressé, typiquement avant de peut-être prendre le micro et de parler, voilà, pour cette chronique, je peux avoir les mains moites, je peux transpirer, je peux avoir ma respiration comme ça qui s'accélère. Et en fait, il n'y a pas de danger à proprement parler. C'est vraiment, c'est mon système nerveux qui perçoit comme un danger. C'est ça qui est très insidieux, c'est que on est vraiment un corps, le corps humain est un corps archaïque et du coup on a des réflexes qui sont plus ou pas adaptés vraiment à notre environnement. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a des choses par le passé qui ont été des événements traumatisants. Souvent, ça se passe dans l'enfance, donc on n'a pas forcément souvenir de ça, mais le corps, il se souvient en fait. C'est ça qui est assez fascinant.
Et quand on parle de dérégulation, c'est pour dire que la réponse du système nerveux n'est pas adaptée, c'est ça, à la situation, justement ?
Exactement, ouais, exactement. Typiquement, il y a cet exemple de dire, imaginons, on note de 0 à 10. S'il se passe quelque chose pour moi qui est de l'ordre de, je sais pas, 0 à 1 en termes d'impact, typiquement, je dois aller acheter du pain. Et que ma réaction, elle est de 7 parce qu'en fait, du coup, je me mets à faire une crise d'angoisse parce qu'en fait, j'ai peur de croiser mon ex à la boulangerie. Là, on peut voir que il y a trauma parce qu'en fait il y a une surréaction par rapport à la situation donnée. Donc 85% de la population.
Ça fait du monde, oui.
C'est ça. Et du coup, c'est ce qu'on appelle la neuroception, donc c'est la manière dont notre système nerveux il voit le monde, il perçoit le monde. Elle est réglée, entre guillemets, par défaut, par justement les traumas, les expériences passées. Et voilà, selon si notre système, il a perçu quelque chose comme étant un signal d'alerte, un danger. Et du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir, de soi ou accompagné par un ou une thérapeute, pouvoir identifier ces moments-là. Parce que, du coup, de par nos réactions corporelles, on va aussi venir alimenter des croyances, voire des vérités. Typiquement, si mon ex habite à côté de la boulangerie, bah du coup... faut que j'arrête d'aller fréquenter cette boulangerie, des choses, et du coup on va venir se fermer ou se conditionner, se limiter dans nos vies parce que on n'a pas envie de se confronter, mais ce qui est totalement normal, et en même temps ça peut venir vraiment nous handicaper à plein d'endroits dans nos vies.
Et alors, est-ce qu'on a une explication de ce chiffre, pourquoi ça concerne autant de monde finalement, cette dérégulation?
Et ben c'est vraiment en tout cas, là, je te réponds, j'ai pas la réponse précise d'un ou une auteur ou autrice, mais pour moi, c'est que, en fait, on a évolué de manière très rapide en tant que Homo sapiens, en tant qu'humain, et que du coup, on a gardé ces réflexes archaïques, et que en plus, de plus en plus, on a du temps, de l'espace disponible pour être en lien avec nos émotions, pour être en lien avec nos intériorités, mais que du coup, ça crée un espèce de gros micmac où on enlève le voile sur des traumas, mais on sait pas vraiment trop comment. Parce que tant qu'on est en mode survie, finalement, on s'en rend pas compte. C'est le moment où on met de la conscience dessus, on se dit « Ah tiens, il y a un souci ». Et donc, dans toute, pour moi, cette époque où, en fait, bah, il y a du développement personnel, il y a de la connaissance de soi, ça vient lever les voiles sur certaines choses. Mais du coup, et en fait, comment dire, quand on était chasseur, chasseuse, cueilleur, et que le danger pouvait vraiment être là, d'une bête qui rentre dans la grotte ou j'en sais rien... Là, ça avait du sens, mais aujourd'hui, avec en tout cas, moi, comment je me vois, après, je suis privilégiée, je veux dire, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger dans mon assiette, j'ai des proches qui m'aiment et bienveillants autour de moi. A priori, il n'y a pas de raison.
Oui, pas de danger immédiat, et pourtant, le système nerveux peut percevoir des menaces, en fait, qui n'ont plus lieu d'être, quelque part.
Et qui sont quand même des protections.
Oui. Bah oui, complètement. Et après, c'est tout le jeu, en fait, d'avancer. Je vais vous expliquer après comme les trois états des trois grands états du système nerveux, mais c'est tout le jeu de savoir se dire, OK, là, je me sens comme ça. Est-ce que c'est ajusté ou pas? Et si oui, comment je peux gagner en marge de manœuvre de revenir dans tel ou tel état? Parce que finalement, c'est pas ce qui est bon pour moi, là, sur le moment. Et ça vient dire que potentiellement il y a eu trauma, que du coup, il y a, à venir mettre de la conscience, du soin, de la guérison aussi à tel ou tel endroit. Donc ça, en fait, c'est assez fascinant. C'est, pour moi, c'est une boîte de Pandore. Ça nous donne beaucoup d'indications aussi sur comment s'apporter du mieux-être. Mais du coup, voilà, pour rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet. Donc, il y a l'état, ce qu'on appelle vagal ventral, qui, en fait, veut tout simplement dire qu'on se sent en sécurité. Du coup, à l'intérieur, on se sent calme, on est en capacité d'être en connexion avec soi, avec les autres. On est dans une forme d'ouverture. Et dans nos relations, ça veut dire qu'on est capable d'être en empathie, de faire preuve de curiosité par rapport à l'autre, même si l'autre est très différent de moi, notamment peut-être mon partenaire. Je suis curieuse, je pose des questions, Et ce qui fait que du coup, j'ai des a priori positifs sur l'autre personne. Je me dis pas qu'elle est malveillante ou quoi. Je me dis non, la personne elle est là, elle est qui elle est, elle veut mon bien, il y a pas de souci. Je peux être en lien du coup avec mes propres intentions, mes propres désirs, mes propres besoins, aussi mes limites. Je suis capable de les poser, je suis capable de les maintenir. Voilà, vraiment quelque chose de c'est posé, c'est serein. Sauf que souvent, les événements de la vie et dans nos relations, on peut vraiment être amené à aller visiter les deux autres états qui sont donc l'état sympathique, qui va être en fait un état d'hyperactivation, un état d'alerte de l'anxiété, clairement. Et dans le corps, ça se manifeste par une augmentation de l'intensité, une activation, vraiment au niveau corporel, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être la respiration, ça peut être la transpiration, ça peut être aussi les pensées qui turbinent à fond. Et en fait, ça veut dire que mon système nerveux a détecté quelque chose ou quelqu'un comme une menace, et donc il y a une adaptation, mais ce qui fait que ça consomme beaucoup d'énergie, ça nous demande vraiment beaucoup d'énergie. Et donc, comme il y a une alerte à une menace, il y a donc des interprétations, et donc je vais me dire que les problèmes viennent de l'autre, que l'autre est une menace, que l'autre est mon ennemi, etc. Et quand on est activé comme ça dans ce mode sympathique, on peut avoir plusieurs réactions. Peut y avoir, on peut vouloir fuir. Donc voilà, il y a peut-être un problème dans la relation. Hop, je vais chercher, je vais partir. Je vais aller soit m'isoler, soit partir, soit même quitter une relation. Ça peut être ça. Je peux aussi me mettre en mode combat. Donc là, voilà, l'autre est mon ennemi. Donc ça peut partir en dispute, en insulte, voilà. Ça peut aussi être que je suis figée. En fait, il y a tellement de choses qui se passent, c'est tellement énorme que du coup, je me retrouve un peu comme le lapin là dans les phares, voilà, qui sait plus trop, et donc c'est tendu. Je veux dire, c'est crispé, mais c'est voilà, je peux plus bouger. En fait, c'est trop pour moi, trop d'infos. Ou alors, je peux me suradapter aussi. Donc, je peux projeter, ah tiens, qu'est-ce que l'autre attendrait de moi à ce moment-là, et donc je vais faire ou dire des choses qui, selon moi, pourraient aller dans le sens de l'autre personne pour justement un peu calmer le jeu. Et donc voilà, dans nos relations, ça peut donner, comme je vous disais, des échanges de attaque, contre-attaque, argument, contre-argument, c'est toi, non c'est pas machin, non mais parce que là, ça parle vite, ça parle du tac au tac, il y a beaucoup d'intensité. On n'accueille pas du tout les silences, on est vraiment en train de, voilà, de vraiment sur enchérir. Et in fine, ça vient dire qu'en fait, il y a comme une recherche de contrôle aussi sur toute cette émulsion qui est en train de se passer, là, toute cette agitation. Et que du coup, c'est impossible de lâcher prise parce que il y a de la peur. Donc, à ce moment-là, c'est très difficile, du coup, de revenir dans un état, voilà, de confiance et de calme, parce qu'en fait, on perçoit vraiment notre environnement et l'autre comme une menace. On se croit en mode, on croit qu'on va mourir, clairement. Et donc, ouais, c'est très difficile de sortir de ce mode-là.
Ça nous déconnecte en fait à la fois de nous-mêmes et de l'autre en fait en face de nous.
Complètement, ouais. Ouais. Et en même temps, comme disait Céline tout à l'heure, en fait, enfin, c'est juste physiologique, quoi. Je veux dire, vraiment, c'est normal en fait. Il y a rien de bien ou mal à ça. Et même, j'ai envie de dire, si par exemple, je sais pas, on se fait courser par un chien, en fait, c'est totalement normal et bienvenu d'être en mode sympathique. Donc en fait, il y a vraiment des situations dans lesquelles c'est vraiment bienvenu. Par contre, c'est voilà. Comment voir quand on n'est pas au bon endroit. Et du coup, en réaction, en fait, à cet état sympathique, il y a l'état dorsal. Parce que comme on a vu qu'en état sympathique, ça nous demande, ça nous crame notre énergie, en fait, parce que vraiment, on est en sur-régime. Et bah, du coup, après ça, on va passer en mode dorsal. Et donc, le mode dorsal, c'est vraiment un état de repli, un état de déconnexion, un état aussi d'isolement. En fait, j'ai tellement plus de jus que du coup, voilà, j'ai plus l'énergie pour être en lien ni avec moi ni avec les autres, quoi. Comme j'ai pas réussi à écarter la menace et que je suis épuisée, et bah voilà, l'énergie elle est plus là, et donc c'est très difficile de se connecter à soi, aux autres. C'est du coup, il y a une sensation de distance qui s'instaure. C'est vraiment, je suis plus en capacité, quoi. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de jus, quoi. J'ai tout donné dans l'état sympathique, voilà. On peut plus compter sur moi. Et du coup, je passe en mode économie d'énergie. Donc soit j'arrête des choses, j'abandonne des choses, soit des actions, de même des voilà, d'être en lien. Mais en même temps, voilà, c'est un mode survie. C'est typiquement, j'ai l'image des animaux. En fait, les animaux, quand ils sont malades, eh ben, en fait, ils se mettent en mode dorsal, quoi. Ils dorment, ils sont un peu léthargiques, mais en fait, c'est pour regagner de l'énergie. Et ça, typiquement, ces états-là, c'est typiquement des états qu'on va pouvoir goûter quand on est en burn-out, par exemple, ou quand on est dans des phases de désespoir, de désespérance, qu'on se sent seul, qu'on se sent isolé, que c'est difficile de tenir une conversation parce que juste on n'arrive pas à être là. Voilà, peut y avoir aussi du fatalisme, de l'immobilité. C'est vraiment l'image de la limace, quoi. Il y a plus de tonus, quoi. Il y a plus, voilà.
Après le lapin dans les phares, la limace qui se traîne.
Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, voilà, c'est plus possible. Il y a juste du coup le repos physique et puis le repos émotionnel, relationnel, qui peut venir, si on fait rien en tout cas proactivement, qui peut venir redonner un petit peu d'énergie. Et souvent, en fait, comme on n'arrive pas à identifier dans quel état on est, on va venir faire le ping-pong. Ça aussi, on dit que la population, enfin qu'on est dérégulé, parce qu'en fait on vient vraiment faire le ping-pong entre sympathique, je suis hyper activée, et après je repasse en dorsale, j'ai plus de jus, et puis après dès que j'ai encore un petit peu d'énergie, je repasse en sympathique, et en fait on se fait des hauts bas, parce qu'aussi on a des comme des mauvaises stratégies pour vivre et pour traverser ces grands états.
Alors, est-ce qu'on va parler des solutions, peut-être, des pistes à creuser pour essayer de sortir de cette activation, désactivation?
Eh ben, ouais, carrément. Il y en a. Après, voilà, c'est un chemin, c'est du boulot, c'est, voilà, mais il y en a carrément. Bah, déjà, la première chose, c'est de pouvoir mettre de la conscience dessus. Si on y arrive seul, c'est bien. Si on n'y arrive pas seul, bah, de se faire accompagner par, encore une fois, un ou une thérapeute qui peut être, du coup, formée à la théorie polyvagale, à la théorie de l'attachement aussi.
Oui. Intelligence relationnelle et l'IFS.
Oui.
Internal Family System.
Il y a ça, il y a éventuellement aussi le somatic experiencing qui est vraiment très en lien avec la mémoire du corps et le trauma, comment il s'inscrit dans le corps.
On pourra peut-être indiquer toutes ces pratiques en lien sur le site internet de Radio Royan quand la chronique sera en ligne.
Ouais, carrément. Et en gros, l'idée, c'est de pouvoir se identifier dans quel état on est, de pas rester campé en fait dans l'état sympathique ou l'état dorsal, pour vraiment passer un maximum de temps dans l'état ventral, donc dans l'état de calme, si les conditions le permettent. Typiquement, en fait, si on est en relation avec une personne qui est violente, qui est maltraitante, en fait, on ne peut pas être dans l'état ventral. C'est juste impossible. Donc, c'est aussi de pouvoir identifier en fait. Bah, est-ce que je me sens en sécurité dans mes relations? Est-ce que je me sens assez à l'aise pour être moi-même, etc., etc. C'est aussi pour moi, ça vient dire beaucoup de avec qui on relationne, de comment on se voilà.
Oui, ça peut être un signal d'alarme, comme tu disais Céline tout à l'heure, une protection quelque part.
Oui, pour moi, on peut pas enlever ses piliers comme ça juste en se disant c'est pas bien, je me protège. Enfin, si on se protège, on a des raisons de se protéger, et du coup il faut prendre soin de ça, de comment est-ce qu'on recrée de la sécurité, comment est-ce qu'on vient apaiser.
Carrément. Du coup, et on peut voir aussi, alors on peut aller s'intéresser au style d'attachement. Alors je vais pas l'évoquer maintenant, et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine chronique, mais en gros, selon comment on a été sociabiliser en étant petit, on va s'attacher de telle ou telle manière, et ça va venir impacter du coup notre système nerveux. Donc voilà, on peut aller chercher style d'attachement sur les internets. On peut aussi être à l'écoute de notre physiologie, de comment on se sent. Par exemple, typiquement, quand on est fatigué, souvent on va avoir un élan à la tristesse, et on va du coup avoir un élan à être plutôt dans un état dorsal. Pareil, quand on a, par exemple, quand on est menstrué et qu'on a nos syndromes prémenstruels, souvent notre discours interne, il est pessimiste, on peut même s'auto-flageller beaucoup. Donc ça impacte aussi forcément les hormones. Comment muscler en fait notre capacité à revenir dans l'état de calme quand les conditions sont là. Donc je le disais déjà, la thérapie. On peut aussi se rééduquer au niveau relationnel et émotionnel. Donc vraiment comprendre, gagner en compétence de comment je suis en relation, comment je gagne de la sécurité aussi à être en relation avec moi-même, du coup, dans ma propre relation et dans les relations aux autres, et aussi au niveau de mes émotions. Et aussi comment je cultive un état d'esprit qui, est plutôt dans l'autre veut mon bien, je pars du principe que j'ai confiance, pour moi ça doit être quelque chose qui comme prouvé. Je veux dire, je vais pas donner ma confiance comme ça. Il y a quelque chose qui s'éprouve aussi dans la relation, mais au bout d'un moment, si la personne, ça fait quelques temps où en fait a priori il y a pas de il s'est rien passé pour que la personne elle perde ma confiance, je peux lui accorder ma confiance. Enfin, il y a quelque chose aussi que ce soit en lien, encore une fois, avec la personne, et que ce soit pas déconnecté de certaines valeurs ou certaines choses qui sont importantes pour nous. Mais pour moi, c'est ça aussi l'éducation relationnelle. C'est en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est important pour moi dans les relations? Et si une personne, elle ne respecte pas, typiquement, moi, j'ai une valeur de respect et de bienveillance. Si en fait, la personne, elle est pas bienveillante envers moi, je vais dire ciao, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas m'entêter à rester dans une relation si la relation, elle me fait pas du bien. Et donc il y a ça, ce qui est ça, c'est plus à un niveau, je veux dire, peut-être de plus mental que corporel. Et typiquement, quand on est justement activé, ça peut venir nous soutenir, de venir respirer ou faire des mouvements pour revenir dans le corps, en fait, et pour venir fluidifier et faire circuler les énergies qui sont bloquées, les tensions qui sont bloquées. Et il y a aussi les huiles essentielles qui peuvent soutenir, voilà, pour revenir dans l'état, ce que j'appelle l'état du milieu.
Voilà, donc des pistes pour apaiser en quelque sorte ou pour réguler notre système nerveux. On s'interrogeait aujourd'hui donc sur l'impact du système nerveux dans nos relations avec Claire. Claire qui veut ajouter quelque chose.
Oui, bah peut-être du coup d'autres ressources aussi. Vous pouvez, si la thématique vous intéresse, aller lire le livre Ancré de Deb Dana, qui est vraiment super et qui démystifie la théorie polyvagale, le système nerveux. Et aussi les vidéos de Gaëlle Lannes, Viens on s'aime, sur YouTube, qui, pareil, fait beaucoup le lien entre les styles d'attachement, le système nerveux et comment on est en relation.
Des références qu'on vous indiquera sur le site, donc radioroyant.fr, en lien donc avec cette chronique de Claire sur l'impact du système nerveux. Et bien, merci beaucoup Claire, merci Céline. Donc vous appartenez toutes les deux au collectif féminin Naissance Royan Vercors et vous nous proposez chaque semaine cette chronique Osons l'intime. À très bientôt.
À bientôt.
Pour de prochaines chroniques Osons l'intime, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Claire et à Céline du collectif Féminin Naissance Royan Vercors à l'adresse mail suivante féminin naissance@gmail.com.